Nous allons prendre un des textes suggérés par le CEL pour cette thématique proposée cette année, prière de les rejoindre. Nous allons prendre un psaume, le psaume 34, psaume dit de David. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche. Je mets ma fierté dans le Seigneur. Les pauvres entendent, ils se réjouissent. Magnifiez le Seigneur avec moi. Exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes frayeurs, il m'a délivré. Ceux qui regardent vers lui sont radieux et leur visage n'a pas à rougir. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le messager du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon, heureux l'homme qui trouve en lui un abri. Craignez le Seigneur, vous tous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les jeunes lions peuvent souffrir de la misère et de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous apprendrai la crainte du Seigneur. Quel est l'homme qui prend plaisir à la vie, qui aime les jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal, tes lèvres et tes paroles trompeuses. Écarte-toi de ce qui est mauvais, fais ce qui est bon, recherche la paix, poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs appels au secours. Le Seigneur se tourne contre ceux qui font du mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand ils crient, le Seigneur entend, et il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. Nombreux sont les malheurs pour le juste, mais de tous, le Seigneur le délivre. Il garde chacun de ses os. Aucun d'eux ne sera brisé. Le malheur fait mourir le méchant, et les ennemis du juste devront réparer leur tort. Le Seigneur libère ses serviteurs. Aucun de ceux qui se trouvent en lui un abri ne sera en tort. Amen. Voilà donc un psaume de David. Psaume d'une prière exaucée. Et au fond, le CEL nous invite à rejoindre nos frères et sœurs du Sud sur le sentier de la prière. Alors la prière, il a beaucoup été dit, beaucoup été écrit, beaucoup été parlé. C'est un vaste, vaste thème dont on peut facilement parler, mais la mise en pratique est parfois plus difficile. Et puis là, le psaume 34, on voit la joie de quelqu'un qui est exaucé. Oui, David a été préservé de Saül, alors qu'il était chez les Philistins, il a fait le fou, il s'est mis à baver, écrire, pour être préservé. Le Seigneur l'a ainsi, par cette mascarade, finalement guéri, sauvé, délivré, tout ce qu'il exprime dans ce psaume 34. Est-ce qu'il existe une méthode pour garantir l'exaucement à 100% de la prière? Il me semble que si nous répondons par l'affirmative à cette question, nous dévions. Et nous ne parlons pas de la prière telle qu'elle est développée dans la Bible. Et c'est assez étonnant que cette prière exaucée, parce que David a des grandes envolées lyriques. C'est de toutes les frayeurs, c'est toutes les détresses qui s'évanouiront pour celui qui est juste. Ceux qui le craignent ne manqueront de rien. Ni misère, ni faim, rien ne leur manquera. Et le CEL nous livre un témoignage qui va dans ce sens. Lucien Aoudjanou est directeur d'un orphelinat et il nous raconte dans un court témoignage qu'un jour, alors qu'il était en train d'ouvrir le dernier sac de maïs pour les 68 enfants à nourrir, il était désespéré. Et se tourne vers les enfants et dit « Qu'est-ce que nous allons faire ?» Et les enfants, très naïvement, très confiants, disent « On va prier le Seigneur !» Et c'est ce qu'ils ont fait. Les enfants et Lucien se mettent à prier. Et voilà que le soir, on téléphone à Lucien en lui disant de venir avec deux camions. Il ne savait pas qui appelait, ni qui avait pu appeler pour exprimer leurs besoins. Mais Lucien y va et se retrouve à remplir son camion de riz, de saucisses et de maïs. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit « Oui, le Seigneur exauce les prières. » Cette expérience, ce témoignage montre bien que le Seigneur exauce les prières. Et c'est vrai qu'il les exauce. Mais j'aimerais aborder ce matin un autre aspect de la prière. Alors c'est vrai, nos prières, le Seigneur les utilise comme point d'appui pour décliner sa volonté. Mais quand l'exaucement ne vient pas, est-ce qu'il n'y a pas des moments où la prière intense ne semble pas avoir d'écho, où l'exaucement ne semble pas venir? Et c'est vrai, l'expérience, les famines, la guerre, montrent bien qu'il y a des choses encore qui ne sont pas exaucées. Et il y a même des psaumes qui évoquent ces questions. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu ? Il y a des grands personnages bibliques qui n'ont pas été exaucés. Moïse, David, Élie et même Jésus. Lorsqu'il demande à Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Y aurait-il donc des cas où le Seigneur ne répond pas aux prières du pauvre ? Alors, d'aucuns diraient assez facilement, j'ai la recette, je peux t'expliquer pourquoi ta prière n'est pas entendue. Certains diraient, c'est le manque de foi. Tu n'as pas assez de foi en Dieu, alors Dieu ne te répond pas. Est-ce suffisant ? Je ne le crois pas. Parce que dire que Jésus n'a pas eu assez de foi, et puis c'est vrai, il y a bien une question de lien entre la foi et l'exaucement, mais ce n'est pas un lien automatique, un lien mécanique, un lien immédiat, où au fond, il faudrait prier avec une certaine dose de foi, et à ce moment-là, Dieu nous exauce systématiquement. Une autre raison, plus discutable encore, c'est de dire au fond, Dieu ne répond pas à ta prière parce que tu dois avoir quelque chose à confesser, un petit quelque chose qui bloque l'accès à Dieu. C'est possible, mais ce n'est pas une réponse suffisante. Autre possibilité, certains pourraient vous dire, mais tu sais, dans l'épître de Jacques, Jacques dit « Vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez mal ». Et c'est vrai que parfois, on peut avoir des problèmes de formulation, de compréhension peut-être avec Dieu. Cette semaine, avec Benjamin, nous montions une petite voiture en Lego. Et à un moment donné, il me demande « Papa, aide-moi à enfoncer ce petit bitonio pour que la structure fonctionne bien ». Alors moi, je lui demande « Mais comment on demande ? Ou comment on dit ?» Et il dit, mais papa, c'est simple, tu poses ton doigt là et tu pousses et ça va rentrer. Il n'avait pas saisi que je demandais, s'il te plaît. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème de formulation ? Il me semble que parfois, c'est plutôt un problème de motivation. L'épître de Jacques nous dit que ses destinataires n'entendent pas, ne reçoivent pas de réponse à leur prière, car ils demandent des choses qui sont discutables en termes de motivation. Et c'est vrai que parfois le Seigneur peut nous inviter à réfléchir, à penser les motivations de nos prières. Il peut nous faire remonter dans le cheminement de nos prières et nous inviter à répondre à cette question, pourquoi tu pries ce que tu pries ? Alors oui, nos prières doivent être sincères et honnêtes. Et il faut parfois accepter que Dieu ne répond pas automatiquement pour nous aider, nous inviter à aller plus loin, à approfondir les motivations de nos prières. Alors, chers amis, c'est maintenant le moment pour moi de vous donner les secrets d'une prière victorieuse, les 10 clés pour garantir un exaucement. Eh ben non, ce ne sera pas le cas. En fait, je crois qu'il n'y a pas de recette magique. Mais lorsque Dieu ne nous semble pas répondre à nos prières, il est important d'avoir une bonne doctrine. Oh, la doctrine n'est pas un ensemble de dogmes froids, distants de notre réalité, mais des piliers solides pour fonder notre foi, notre confiance, notre abandon dans les bras du Père. Il faut, chers amis, avoir une bonne doctrine de la prière, ce que c'est, et une bonne doctrine dans la prière. Voilà ce que je vous invite à penser, réfléchir, méditer ce matin. Oh, on ne pourra pas aller dans la profondeur, mais esquisser quelques pensées. D'abord, la doctrine de la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière ? La prière est d'abord lieu de rencontre avec Dieu. Lieu rendu possible par celui dont aucun os n'a été brisé à la croix, le Christ. C'est lui qui nous permet de rencontrer Dieu dans un moment d'intimité, dans un moment de secret. Encore un exemple, cette semaine, alors que je préparais la prédication, j'ai eu plein d'illustrations avec Benjamin, mon garçon. Et j'apprends beaucoup de la prière à travers les relations qu'on a avec les enfants. J'étais au bureau et voilà qu'il toque à ma porte. Et moi, je me réjouissais de le voir après toute la journée de travail. Et j'étais prêt à lui dire, je suis content d'être avec toi, Benjamin. Prenons un peu le temps de nous asseoir et discuter. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? La première parole, papa, est-ce que je peux avoir un coloriage? Alors je lui ai dit, non, à peine je lui ai dit du temps de dire, attends un peu. Qu'il s'est parti, il est parti et il s'est mis à bouder. Et parfois, je pense qu'on pourrait glisser dans ce penchant, dans la prière. Pensez au fond que la prière est un moment où on va demander tout de suite quelque chose à Dieu. Mais en réalité, la prière telle qu'elle est décrite dans la Bible, c'est d'abord un dialogue, un échange avec Dieu. C'est un acte d'adoration, un acte de mise à la disposition, à la présence divine. Et c'est vrai que ce lieu de rencontre qu'est la prière peut être louange, cri, appel au secours, demande de pardon, demande de justice. Mais elle est d'abord le lieu de rencontre avec Dieu. La prière, disait un auteur, ce n'est pas un art, c'est un cri. On ne peut pas faire semblant ou la pratiquer, on peut simplement l'exprimer. La prière est l'espace que le Seigneur nous ouvre, les bras qui nous ouvrent pour que nous puissions nous épandre devant lui. Et Dieu, sauf à me contredire, ce que je pense possible, Dieu n'a pas promis de nous accorder toutes nos demandes, in extenso, telles quelles. Je ne sais pas si vous avez vu un jour ce film avec un acteur assez comique, Jim Carrey, Bruce Tout-Puissant. C'est l'histoire d'un monsieur qui râle après Dieu. Il râle parce qu'il n'a pas tout ce que Dieu, tout ce qu'il voudrait. Et il prie et il prie sans cesse, Seigneur, je voudrais une belle carrière, une belle voiture, une belle maison. Et il râle et il râle. Et puis un jour, Dieu lui dit, sois Dieu à ma place, on va voir. Et Dieu lui donne les pouvoirs et au fur et à mesure, alors au début c'est rigolo parce qu'il peut faire des miracles, il peut séparer les voitures et traverser les bouchons sans aucun problème, à la manière de Moïse. Et puis, petit à petit, il entend des voix. Et Dieu de lui dire, mais ces voix que tu entends, ce sont les prières du monde. Et puis ces voix le réveillent jour et nuit. Et il en a marre. Alors il crée un logiciel de prière automatique. Vous savez, comme nous avons les logiciels pour gérer nos messages, nos emails. Et puis il entend, et ça s'enchaîne par centaines, par milliers, par millions. Alors il sélectionne tous les mails et il répond à toutes ces demandes, oui. Sauf que ça crée une situation infernale. Imaginez le nombre de personnes qui prient pour gagner au loto et qui gagnent au loto, mais qui sont des millions, des milliards. Ça crée des révoltes. Et il en est pareil. Si toutes les personnes qui priaient pour être, je ne sais pas, président de la République étaient exaucées, on aurait des problèmes. Et c'est ce qui génère un petit peu dans ce film, jusqu'à ce que cette personne, cet humoriste, cet acteur, réalise que finalement, Dieu est bien à sa place et qu'on n'est pas Dieu. Oui, le Seigneur a promis, non pas de nous exaucer toutes nos prières, mais de les écouter. Le Seigneur n'est pas une machine à sous spirituelle. Vous savez, il suffirait simplement de baisser le bras, demander quelque chose, et le Dieu, le Seigneur, nous exaucerait. Ça serait terrible si c'était comme ça. Non, la prière, c'est d'abord le lieu de rencontre entre le Créateur et sa créature, entre le Père et son enfant. Et dans les silences de Dieu, dans ces non-exaucements, ce sont ces temps de prière, sont des lieux d'apprentissage de la confiance en Dieu. L'occasion de vivre l'abandon complet. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me dis « attends un peu » ou tu me dis « non ». Mais simplement, je veux m'abandonner à toi. La prière, c'est ce lieu secret d'un dialogue, d'une relation entre Dieu et ses enfants. Oswald Chambers disait « Nous voyons souvent la prière comme un moyen d'obtenir quelque chose. » Mais dans la Bible, la prière est un moyen de mieux connaître Dieu. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a des grands hommes qui n'ont pas été exaucés. David, Moïse, Paul, et j'en passe. Ils n'ont pas été exaucés parce qu'ils n'avaient pas forcément un problème de péché, de manque de foi, mais ils avaient à se placer devant Dieu pour discerner sa volonté. Chacun dans leur parcours de vie ont eu ces lieux de rencontre, ces lieux où ils ont dû découvrir la volonté de Dieu et s'incliner devant elle. Et Dieu nous invite dans la prière à ces lieux de dialogue, ces lieux de réflexion, ces lieux de discussion pour épancher nos cœurs. Une bonne doctrine dans la prière maintenant. Qui prions-nous? Et puis, qu'est-ce qu'il faut finalement attendre? Qui prions-nous? Alors Dieu, dans la Bible, n'est pas décrit comme un père fouettard qui ferait plouf, plouf, ça ne sera pas toi qui seras exaucé aujourd'hui. Le Dieu qui est décrit dans la Bible n'est pas ce Dieu-là. C'est un Dieu profondément bon, nous dit David. Goûtez et voyez que Dieu est bon. Il est tout puissant. Aussi, si le Seigneur ne nous répond pas tout de suite, oui, s'il garde silence, ce n'est pas un problème de capacité. Il n'aurait pas les bras trop courts pour répondre. Non, mais c'est un problème de volonté. Le Seigneur ne souhaite pas, ne veut pas répondre de telle ou telle façon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit la réponse ou la non-réponse, le Seigneur est profondément bon et sa volonté est bonne, pure et parfaite. Alors s'il garde silence, s'il ne répond pas tout de suite, l'intention de Dieu ne sera jamais mauvaise, jamais discutable. Dieu se soucie de nous. Il nous invite à nous confier en lui, à être un abri au temps de la détresse. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le psaume, le Seigneur est décrit comme quelqu'un qui est proche. Et le Seigneur, lorsqu'il donne sa volonté, lorsque dans ces moments de prière, on conjugue, on harmonise notre volonté à la sienne, alors le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il n'est pas là, sur son nuage, de loin, à distance, à donner sa volonté, non, oui, non, de façon automatique, mais le Seigneur s'implique, le Seigneur est proche de nous. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, « Tu es là au cœur de nos vies », mais c'est profondément cette réalité-là. Le Seigneur est bon, tout-puissant, capable de bien des grandes choses, mais qu'il réponde ou pas à nos prières, maintenant, demain, le Seigneur est là. Et c'est vrai que le Seigneur a parfois des projets bien mystérieux, des moments où on se pose des questions sur sa volonté. Mais les pauvres, ceux des pays du Sud, nous donnent parfois des exemples de confiance qui nous manquent parfois. D'une confiance toute simple que Dieu va exaucer la prière. La prière maintenant, peut-être demain, peut-être lorsque le Seigneur reviendra. Oui, le Seigneur a parfois des projets mystérieux. Et dans le temps présent, sa réponse ne sera pas forcément celle que nous attendrions. D'ailleurs, le Christ lui-même, alors qu'il était à la veille de sa mort, a dû apprendre à dire « ta volonté et non la mienne ». Ce Dieu-là, c'est celui-là que l'on prie. C'est celui-là avec qui on passe du temps dans la prière. Un Dieu fidèle, juste, souverain sur le monde. Le Seigneur est là. Aussi, parfois, il faut bien avouer que nos temps de prière devraient être, pourraient être, des temps de confession de foi. Des moments où on se rappelle ces choses que l'on connaît profondément. Oui, Seigneur, je sais que tu es bon. J'ai du mal à le réaliser maintenant, dans ce que je vis, mais j'y crois. Et nos confessions de foi ne seraient pas que des récitations froides, mais des élans de confiance, souvent entourés de larmes. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, disait Jésus. Le Seigneur connaît chacun de nos besoins, même les plus intimes, même les plus secrets. Et il veut nous associer à sa vie, à son plan. Non pas en lui forçant la main, en lui disant « Seigneur, s'il te plaît, fais ceci ou fais cela pour moi », mais en nous accompagnant, en vivant avec nous ces temps de souffrance, ces temps de silence même parfois. Chers amis, que nous ayons de la peine à parfois discerner la volonté de Dieu, c'est normal, parce que Dieu est Dieu. Alors c'est vrai, après que nous ayons dit tout cela, l'importance d'avoir une bonne doctrine de la prière comme lieu de rencontre, une bonne doctrine dans la prière de savoir qui prions-nous. Il y a quand même quelque chose à ajouter. Parce que sauf à dire que le psaume 34 est un texte d'un religieux un peu déconnecté de la réalité, il pose quand même question. Parce que quand est-ce que les méchants vont répondre de leurs méfaits? Quand est-ce que les justes, les pauvres, les malheureux, qui ont crié à Dieu, qui crient et qui crieront, seront délivrés de toute leur détresse? Et nous l'avons dit, les nouvelles de ce monde ne sont pas sans contredire un peu cette réalité. Ce que nous vivons, chacun, en Église, dans nos familles, nous vivons pas cette réalité, de toutes les détresses, de toutes les épreuves inexistantes. Pour quand est cette délivrance totale pour le juste? Et c'est vrai que ce psaume 34 nous pose la question du quand. Parce qu'il est vrai que le Seigneur parfois exauce la prière dans le temps présent, parfois ça sera dans le moment du demain ou du surlendemain, mais il y a le pas encore. Ce moment où le Seigneur Jésus, celui dont aucun os n'a été brisé sur la croix, celui qui a porté sur lui le poids de nos fautes, le poids de toutes nos épreuves, nos frayeurs, quand celui-là reviendra, alors la libération de tous les maux, la délivrance de toutes les épreuves, de toutes les difficultés sera là. Il y a un déjà et un pas encore dans la réalité de notre vie de prière. Le déjà, c'est que nous vivons dans un monde en proie au péché, au mal. Nous vivons, que nous soyons croyants ou pas, des souffrances, des frustrations, qui sont les causes, qui sont les résultats, pardon, de cette réalité du mal qui a son emprise sur le monde. Mais il viendra un temps. Il viendra un temps où à l'horizon poindra l'aube de celui qui revient pour qu'un jour, plus aucune souffrance, plus aucun mal, plus aucune épreuve ne soit vécue par celles et ceux qui se sont tournés vers lui. Il viendra un temps où chacun d'entre nous pourront faire nôtre cette prière, ce beau verset, quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. En attendant, chers amis, en attendant, le Seigneur nous invite à vivre avec lui, dans la communion, dans ce temps de rencontre qu'est la prière, chacun de ces moments que nous vivons. Pour conclure, le sel a choisi de dire, enfin, choisi ce thème, prière de les rejoindre. Et c'est vrai qu'une réponse un peu cynique de nos chers pays riches pourrait être de dire, mais qu'ils prient pour eux-mêmes, comme le Christ en croix, on lui a dit qu'il se sauve lui-même. Une autre réponse un peu cynique pourrait être de dire, mais la prière, il ne leur reste plus que ça. En fait, ce thème, me semble-t-il, pointe bien le doigt sur l'arrogance parfois de nos pays, sur le choix, la volonté de se passer de Dieu. Ce thème, prière de les rejoindre, est au contraire un message puissant, parce qu'il est une invitation à rejoindre nos frères et sœurs sur ce beau lieu de rencontre avec Dieu qu'est la prière, car eux prient souvent, régulièrement, peut-être même plus que nous. Et eux prient pour nous. Et avoir le privilège, chers amis, de s'approcher d'un Dieu puissant, bon, à la volonté parfaite, de pouvoir nous confier, même dans nos larmes, même dans nos incompréhensions, pouvoir se confier à un tel Dieu, c'est une grande richesse. Et en réalité, c'est nous qui avons besoin d'apprendre des pays les plus pauvres. La prière, ils n'ont plus que ça. Ils n'ont que ça. Et je crois que la prière est un tout. Et au fond, nous pourrions leur rendre grâce de prier pour nous. La prière. Tant de choses à dire, tant de choses à penser, à raisonner autour de la prière. Mais la prière doit être mise en pratique. Elle n'est pas une vertu réservée à chacun, mais une possibilité de s'approcher, chacune et chacun, du Dieu plein de grâce, du Dieu qui vous aime, qui nous aime, chacune et chacun profondément. Le Seigneur qui nous conduit dans les chemins de sa volonté. Oui, la prière est une grande richesse que nous pouvons, que nous devons partager avec ceux qui ont peu, qui ont moins. La prière devient alors louange, magnifier Dieu. La prière devient aussi invitation au témoignage. Goûtez et voyez que Dieu est bon. Que le Seigneur nous invite chacune et chacun à la prière. Prenons un instant ensemble pour prier. Notre Dieu et notre Père, nous devons bien confesser parfois nos mauvaises compréhensions de la prière, quand les silences, quand les non-exaucements sont là. Et Seigneur, tu ne nous condamnes pas pour cela. Tu nous invites à nous approcher de toi, à vivre ces temps de silence, ces temps de non-exaucement parfois, dans ta présence, dans ce lieu de rencontre qu'est la prière. Père, nous voulons confesser que ce que nous croyons, ta toute-puissance, ta bonté, ta grâce, ton amour, ta fidélité, ne sont pas que des dogmes, des mots, mais des réalités profondes de qui tu es. Aide-nous, Seigneur, à vivre en confiance, à vivre en paix, ta souveraineté, ta volonté. Nous voulons, Seigneur, nous remettre à toi, avec nos frères et sœurs des pays du Sud. Nous te rendons grâce parce que tu accueilles nos prières, Seigneur, tu nous écoutes. Amen.